Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à la littérature avec Patricia Martin des Petits Matins du week-end de France Inter, l'éminent Michel Crépu de la Nouvelle Revue française, Arnaud Vivion de Regards et de Transfuges et Jean-Claude Raspienjaz de La Croix. On parle ce soir des romans de Régis Geoffrey, Tiffany Tavernier, Jean-Marie Roir, Gaël Josse et Goliarda Sapienza. Dans le courrier de la semaine, eh bien, beaucoup de lettres, vous l'imaginez, pour saluer le retour parmi nous de l'ami Jean-Louis Hésine, lettres dont, si vous voulez bien, je lirai des extraits en présence de Jean-Louis au prochain masque littéraire, ce sera le 14 mars. Sinon, nos auditeurs ont aimé, contrairement à vous, les lois de l'ascension de Céline Curiol aux éditions Actes Sud, une écrivaine splendide, nous écrit Antoine Blanc, dont le roman est un souffle de vie à la nature humaine jusque dans ses pulsions de mort. Et Nicolas Mouton d'Argenteuil surenchérit. C'est un roman admirable, très ingénieusement construit, stimulant à chaque page et pas du tout froid, car chaque personnage mis face à un choix nous empoigne et nous interroge. Mais pour saisir tout cela, il faut avoir lu le livre jusqu'au bout en lecteur attentif. En revanche, Marie Kretschmar pense comme vous les lois de l'ascension de Céline Curiol. C'est un hors-série du monde diplo, même pas passionnant. Ce n'est pas de la littérature. Merci au masque de l'avoir dit haut et fort. À propos de Marina A. d'Éric Fotorino chez Gallimard, Geneviève Blaise de Pau ne comprend pas que les critiques du masque soient passées à côté. Un grand merci donc à Patricia Martin pour sa défense de ce livre courageux, paracoleur, qui connaît en effet Marina Abramovic, parfois difficile, voire énervant, mais puissant et à l'écriture efficace. Quant à Jean-Louis Zamboni, qui est libraire à Verdun, ben il est abasourdi par vos propos sur le Colibri de Sandro Veronesi chez Grasset. Je ne chercherai pas à vous convaincre de la grande beauté de ce texte, ce serait gaspiller de l'énergie. Puissent les colibris qui sommeillent en vous réveiller de meilleurs sentiments à l'égard de cet oiseau et du roman qui porte son nom.
Et je suis bien d'accord avec cet auditeur.
Mais tu l'avais dit au
masque.
Mais
je lui ai dit que j'aimais. Mais vous, simplement, j'ai toujours l'impression d'être prise pour une andouille quand, dès que je dis que j'aime
jamais,
et que les autres n'aiment
jamais,
pas.
Jamais personne ne t'a pris pour une andouille.
Ah mais attends, il faut voir les regards de ceux qui sont en face, là.
Jamais.
Ah
oui,
non, jamais. Non, mais vous mentez comme vous respirez.
Jean-Claude et Arnaud, c'est pas bien ce que vous faites avec
c'est
Patricia.
C'est pas bien, c'est pas bien.
Attends, pourquoi je fais partie de cette
Ça me déstabilise.
Et on commence avec L'Ami, un roman noir de Tiffany Tavernier chez Sabine Vespisser. Thierry habite avec sa femme Elisabeth dans une maison à la campagne. Un matin, au réveil, il voit avec, il faut dire, sidération, et on le comprend, le groupe du GIGN prendre d'assaut la maison de ses voisins Guy et Chantal, voisins d'ailleurs charmants, serviables, même si Chantal était très dépressive, bref, avec lesquels l'un et l'autre, Thierry et Elisabeth, avaient d'excellentes relations. Guy est donc embarqué comme un terroriste. Et très vite, par la télé, ils apprennent en fait que Guy est un tueur en série de fillettes dont il enterre les corps dans son jardin. L'Ami était donc un monstre, quelque part, quand on lit le roman, je dirais, entre Fourniret et Dutroux. Tout le roman de la scénariste, puisqu'elle est scénariste, Tiffany Tavernier, fille, je le précise, de Bertrand et de Colo Tavernier. Donc tout le roman décrit cette chute vertigineuse de Thierry, qui s'en veut de n'avoir rien soupçonné, rien vu, qui reste seul avec sa culpabilité, son chagrin, sa colère. Il faut dire que sa femme a quitté la maison et que leur fils unique vit au Vietnam et il va aller sur les lieux de son enfance pour comprendre d'où vient, selon lui, hein, qu'il n'a pas été capable de voir le mal. Patricia ?
Moi, j'ai trouvé que c'était un livre d'une très grande force. Alors, au départ, j'ai pensé à L'Ami impossible, ce livre de Bruno Stabenrath.
Oui, parce qu'on pense un tout petit peu dans les enquêtes de voisinage.
Exactement.
À ce qui s'est passé pour Dupont de Ligonnès.
Exactement. Et Stabenrath n'était pas un voisin, mais un ami d'enfance de Ligonnès. Et il essaye de comprendre cette énigme absolue qu'est ou qu'était son ami, je ne sais pas s'il vit toujours. Ici, c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que Thierry est un homme, bon, c'est un homme ordinaire, c'est un homme tranquille, l'enfant des couvertures cependant, donc là on commence, c'est-à-dire il porte en lui des scènes d'enfance cruelles,
oui,
il porte
qu'il
aussi
faut pas
des
raconter,
guerres,
parce que ça c'est vraiment la fin du roman. Hein.
Mais il porte aussi des guerres, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, il est donc porteur d'une mémoire. Et au moment de cette déflagration tout à coup qui arrive, on comprend peu à peu ce qu'a fait son voisin et ami, parce que ça réveille une panique terrible chez Thierry, une panique qui était à mon avis déjà là. C'est une sidération, c'est d'une brutalité folle, il est mis à nu. Et on voit bien qu'il aurait pu avoir un autre comportement, c'est-à-dire qu'après tout, sa femme s'est tirée. Elle voulait plus habiter dans cette maison, elle lui a dit plusieurs fois, et lui, il lui a dit « non, je reste ». Pourquoi lui a-t-il dit « non, je reste » Ça reste effectivement un mystère.
Il faut comprendre qu'il a été très copain avec ce Guy.
Très copain, mais quand il arrive un truc comme ça, tu peux te dire « je m'en vais ». Même si la maison n'est peut-être pas tout à fait vendable en un premier temps, en tout cas, je m'en vais ailleurs. Mais on voit bien qu'il essaie de trouver un dénouement, une solution, une explication à ce qui s'est passé, même si, enfin, il passe pas loin de la folie. Et d'ailleurs, la fin du livre est très belle parce que c'est tout un chemin qui fait effectivement sur où il va rencontrer des gens qu'il a connus dans son enfance. Il y a une rencontre comme ça en haut d'une montagne, absolument improbable. Et là, il va pouvoir trouver peut-être une forme d'apaisement. Et la jeune femme qu'il rencontre à la fin, à qui finalement il sauve la mise,
c'est ça que je ne veux pas qu'on raconte.
Non, mais voilà. Mais c'est une lumière, tout à coup, dans ce livre.
Mais le vrai point de départ, c'est comment est-ce qu'on peut ne pas voir ce qui se passe à côté de chez vous?
Ben, parce que tout est fait pour que ça ne soit pas vu.
Au fond, ce livre est d'abord un livre sur la stupeur. C'est un... Comment, d'un seul coup, on bascule dans un univers qui est pratiquement l'inverse ou l'antipode de ce qu'on a connu pendant des années dans l'amitié, dans les relations.
Les repas partagés.
Les repas partagés.
Une passion commune pour les insectes.
Une passion commune pour les insectes. Les amis, enfin, tout ce qui fait l'harmonie d'une famille ou d'une amitié, d'un seul coup, se retrouve précipité dans l'abîme du mal. Et je dois dire que c'est Fanny Tavernier, son
Tiffany.
Prénom. Tiffany, pardon. Je dois dire qu'elle arrive très bien à mettre en scène cette stupeur et à installer même, ce qui je trouve encore plus difficile, une sorte de climat. Je dirais pas. J'ai pensé un peu à Shining. Ça n'a pas de rapport avec Shining, évidemment, mais il y a quelque chose quand même. Elle fait passer quelque chose de cet ordre-là. La puissance maléfique d'un seul coup et qui dévaste tout et qui s'empare des esprits d'une manière totalement folle. Le deuxième plan qui m'a moins emporté, qui m'a un peu ennuyé, c'est, je dirais, non pas la stupeur là, mais la recherche.
Le pèlerinage personnel. Là.
Le pèlerinage et le besoin de trouver un sens à quelque chose qui n'a pas de sens. C'est ça qui se passe dans ce...
C'est pourtant
humain. Oui, mais l'humain, c'est ça, justement. C'est produire du sens sans que ce sens ait du sens. Enfin, on est toujours pris dans cette espèce de folie. Et là... Je ne dis pas que c'est raté, je ne dirais pas ça, mais je me suis un peu ennuyé. Cette histoire de Hanoï, du fils à Hanoï avec la pluie, tout ça, bon, ok, mais ça ne m'a pas... disons, voilà, j'aurais aimé rester dans la première dynamique du Shining.
Arnaud.
La première phrase de ce livre, c'est un samedi comme les autres, et là, tout de suite, je dis,
il y a le C que tu n'aimes pas.
Le C que je n'aime pas, et un samedi comme les autres, voilà, je me dis, je vais lire un livre comme les autres. C'est à peu près ce qui va se passer, en fait. Je me souviens que Louis-Ferdinand Céline disait qu'un livre doit hurler sa supériorité dès la première page, mais on a l'impression qu'il y a plein de livres aujourd'hui qui hurlent le contraire, qui hurlent leur infériorité dès la première page. Il y a, si vous voulez, c'est des trucs de scénariste, hein. Il y a un drame, le personnage principal va voir un psy, ça se passe pas bien, il fait une démarche, c'est-à-dire qu'il va à la campagne, on va retrouver ça exactement dans le livre de Gaël Josse tout à l'heure, c'est exactement la même structure, et puis, donc il va aux sources, il va voir les vaches, voilà, il va au grand air, il croise un ermite.
Tu caricatures quand même beaucoup, là. Hein.
Ouais,
tu caricatures beaucoup.
Ah ouais.
Non, il croise un ermite,
fort,
déjà. Il croise un ermite, après il va y avoir une histoire avec une prostituée. Tout ça n'a aucun sens, à peu près. Vraiment, non. Tiens, vous lisez ça, vous êtes atterré, une espèce de quête. Mais si, franchement, c'est des trucs. Voilà, moi, j'ai. Excusez-moi, j'ai l'impression de regarder un téléfilm sur France 3.
J'ai trouvé
tout
que
ça ne tient pas debout.
Les dialogues.
Comment ça ne tient pas debout? Écoute. On a tous vu à la télévision quand les caméras se précipitent chez les voisins des grands criminels, des grands tueurs en série. Souvent, d'ailleurs, ils sont interviewés en robe de chambre ou en, hein. Et chaque fois, on voit sur leur visage et sur leur corps, oui, la sidération d'avoir été si proche de ces criminels-là.
Il était si gentil,
et ça,
il était si
elle le montre bien, je trouve, Stéphanie Tavernier.
Oui, enfin, elle le montre bien, mais soudainement, si vous voulez, elle en fait 3 tonnes. Il a perdu son meilleur ami dans un accident du travail. Donc, il y a une espèce de fêlure déjà à la base. tout ça, et voilà, c'est monté en crème. Au bout d'un moment, c'est écœurant. Ça pourrait être ténu, ça pourrait être subtil. Ça l'est pas.
Et ça l'est pas.
Jean-Claude.
Ça l'est pas.
Ah, mais ça démarre fort. Je vais être encore en opposition frontale avec Arnaud. Non. Je récuse tout ce que tu viens de dire. Elle pose 2 grandes questions qui sont fondamentales. C'est la question du mal, mais c'est pas que la question du mal. C'est la question des ruses. Car c'est tout à fait probable. Je veux dire, les voisins de Fourniret, les voisins de Dutroux, les voisins de Romans n'avaient strictement rien vu. Et c'est même pas.
La famille, bien sûr.
Mais tous les témoignages, que ce soit des grands criminels ou des petits criminels, c'est toujours la même sidération. C'est toujours la répétition de il était gentil, je comprends pas, il amenait ses enfants à l'école. Enfin bon. Donc ça, elle creuse ça très bien, et y compris la pression médiatique, la meute de journalistes qui se précipitent dans ce genre de cas. Et l'autre question qu'elle pose, qui est une question, alors là, tout à fait intéressante, originale, qui est le statut du voisin. C'est quoi le voisin qui, justement, est devenu ami avec le mal, lequel mal...
Quelle est la part de complicité?
Oui, enfin, c'est même pas de complicité, c'est comment... Non, parce qu'il est complice en rien, parce que...
Si, une nuit, enfin, on lui dit que peut-être il est complice, parce qu'il entend...
Il a offert un cri une nuit.
Précisément, c'est là qu'est la grande force du mal, c'est les ruses qu'emploie le mal pour ne pas être vu, même quand c'est sous nos yeux. Voilà. Et je trouve ça très très bien. On voit aussi comment, quand on est pris par ce tourment totalement étouffant, cette cage mentale qui est de ne pas avoir compris ce qui aurait dû sauter aux yeux ou aux oreilles, enferme la personne là-dedans. Et je vous rappelle que quand, dans son univers professionnel, ce fameux Thierry est accusé par tout le monde de ne jamais rien voir. C'est-à-dire qu'il ne voit pas comment il se comporte avec les autres, il ne voit pas quand les choses se passent mal, et il est même rejeté de son entreprise parce que, précisément, il ne voit pas les choses. Donc, je trouve qu'elle s'engouffre dans quelque chose qui est tout à fait intéressant. C'est aussi le roman des ruines, et c'est une méditation, donc, en effet, sur ce statut de voisin, et c'est comment ce personnage qui est confronté à un trou noir, tout explose autour de lui, mais y compris sa raison, c'est-à-dire qu'il part à la dérive, il est perdu, et on voit bien aussi dans ce livre que le mal est comme une épidémie, c'est-à-dire que ça se déploie et ça dévaste tout. Enfin, dernière chose, j'ai dû manquer certains épisodes, mais je voudrais savoir, c'est une question, à partir de quel moment on a considéré que d'être scénariste empêchait d'être romancier, et depuis quand quelqu'un qui s'est raconté une histoire est suspecté d'être scénariste et donc d'écrire comme un scénariste. Depuis quand c'est rédhibitoire? Mais Arnaud a appuyé une partie de son attaque pour dire ça, pour dire on voit bien que c'est une scénariste. Et depuis quand quelqu'un qui est scénariste est empêché d'être romancier et de savoir construire une histoire qui se tient avec une écriture rapide, sèche, efficace, où en effet les scènes et les chapitres s'emboîtent bien pour créer une dynamique qui est accordée au malheur du personnage principal. Depuis quand c'est rédhibitoire?
Tu veux répondre, Arnaud, avant que... Non.
Non, j'ai lu un petit essai littéraire qui s'appelle « Comment écrire aujourd'hui » qui est signé Laurent Dubreuil, c'est publié aux éditions Léo Cher, et il dit quelque chose de très juste, à mon avis, qu'on oublie, et que c'est ce que le reproche que je fais à ce livre. C'est que ce qu'on attend quand même de la littérature, c'est un usage sublimé du langage. Et là, il y a une espèce de trivialité dans la phrase, dans les idées, vous avez tout raconté, effectivement, mais c'est juste, voilà, c'est juste des idées, et il n'y a aucune musique là-dedans, c'est du gros tintamarre.
Depuis quand la littérature est assignée à une raison ultime, unique, et qui n'existe que parce que justement il y a un travail sur la langue? Depuis quand la littérature est réduite qu'à ça? Elle a aussi d'autres fonctions, d'autres utilités, et on y trouve une quantité de plaisir et une quantité de plaisir. À chaque émission, on a droit au procès, au romancier, pour dire ah mais c'est écrit comme une série, c'est écrit comme un scénariste.
L'émission ne fait que commencer. Nous parlions de L'ami de Tiffany Tavernier. C'est chez Sabine Vespisser. D'ailleurs, à la fin de son livre, Tiffany Tavernier dédie son roman à sa mère, Colo Tavernier, la scénariste d'Un dimanche à la campagne, qui est morte en juin dernier. Et elle dit avec toi, avec sa mère, avec toi, la lumière gagnait toujours. Ce matin-là de Gaël Josse, dont parlait juste avant Arnaud Vivian aux éditions Noir sur Blanc, grand succès de librairie. Il faut dire que j'imagine que beaucoup de gens s'y reconnaissent. L'héroïne, Clara Legendre, 35 ans, travaille dur sous la tutelle d'une chef tyrannique dans une société de crédit jusqu'au jour où elle craque. Voilà, tout simplement parce que sa voiture ne démarre plus et elle décide de ne plus retourner au bureau. Victime d'un burn-out, elle sombre dans la dépression. Elle coupe avec son amoureux, ses amis, ses parents, bref, sa vie. Clara la vaillante devient Clara la vacillante. Je cite... Elle voulait s'alléger de tout ce qui pèse, qui peine, qui fait courber l'âme, chasser les ombres et les fantômes à grands coups de pied, rire du bruit de leurs chaînes. Sujet, vous imaginez, mille fois raconté, mais toujours différemment. Que vaut, selon vous, ce livre-là, Arnaud, justement, puisque tu...
Oui, encore une fois, donc le même schéma narratif, un burn-out, on va voir le psy, ça marche pas, on part à la campagne chez les copains qui sont agriculteurs, qui font faillite, enfin, sont endettés, parce que l'agriculteur est toujours, le jeune agriculteur est toujours endetté, mais enfin, ils sont pleins de joie, ils ont des enfants, tout ça, donc on retrouve un peu le goût de la vie, le sentiment, donc on retourne en ville, on va voir un autre psy qui est meilleur, qui vraiment ça marche, et alors, c'est ça qui est, enfin, c'est évidemment, on comprend pas tout, hein, mais en fait, quelqu'un travaillait dans un truc de crédit financier et finalement on va travailler à l'Alliance française. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer le livre.
Pitch,
c'est quand même une belle trajectoire finalement, voilà, du service privé, de l'entreprise privée à la fonction publique, et tout ça dans une langue là encore simple, hein, on va dire, pour pas dire médiocre, mais simple.
Jean-Claude.
Eh ben encore une fois, non, désolé, c'est pas une langue simple, c'est une langue d'une grande douceur pour évoquer une grande douleur. Et comme Gaël Josse arrive de la poésie, elle trouve justement...
Ah, elle arrive de la poésie.
Elle trouve justement avec ce style que tu crois simple, qui est juste... Alors évidemment, ça je comprends que ça te passe à côté, c'est un style délicat, d'accord ? C'est un texte qui est sur le fil, qui est toujours harmonieux, même pour décrire... le chaos intérieur. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre d'une très grande justesse sur la dépression, sur l'affaissement, sur la débâcle intérieure, sur comment cette multitude de petits signes qui s'accumulent et que tu ne vois pas venir, et un matin, c'est un détail parmi d'autres. Elle ne veut pas allumer sa voiture, la faire démarrer. C'est toujours comme ça que commence une vraie dépression. C'est sur un petit détail de rien du tout et d'un seul coup.
Pas toujours sur une voiture qu'on
non,
arrive pas
non,
à faire
mais c'est souvent
hein.
Sur un détail anodin, sur un truc.
Glisser dans sa cuisine.
C'est très souvent sur un détail anodin que d'un seul coup tout craque. C'est-à-dire que le détail qui donne le craquement est sans rapport...
C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, non ? C'est pas ça l'idée ?
L'ampleur de l'effondrement est sans rapport avec le peu de choses. Je voudrais aussi... C'est une radiographie, mais très très précise de ce qu'est une dépression, de sa montée, de l'affaissement, de l'effondrement.
C'est pas William Styron non plus, hein.
Je trouve que elle radiographie très bien.
Je ne pense pas, c'est juste une question objective, que ça a été quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup raconté.
Mais ça le sera de plus en plus, c'est le mal du siècle. Il y a eu une époque où les journaux rivalisaient tous les ans en faisant leur dossier sur le mal du dos qui était le mal du siècle. Ça n'est pas aujourd'hui le mal du dos, les gens en ont plein le dos, donc c'est le mal du siècle. Les romanciers continueront à écrire là-dessus, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on est pris par ces impératifs, il y a trop de tensions, trop d'impératifs, d'urgence, de disponibilité médiatique, d'impatience, on est toujours dans ce toujours plus et le jamais assez. Donc forcément, un jour, ça finit par craquer. Et quel que soit le détail. Et je trouve juste la dernière chose, qu'elle tient la note très bien d'un bout à l'autre du livre.
Michel.
Pardon. Je ne sais pas très bien. C'est le sujet à 5 000 $. C'est effectivement le sujet du siècle. Tout le monde essaye de raconter ça. Donc la descente, la tentative de remonter et puis éventuellement la lumière au bout du tunnel. OK. Moi, j'ai une certaine estime pour ce livre parce que je trouve qu'elle est consciencieuse. Elle fait bien les choses. C'est comme quand tu reviens du magasin de Capla, tu sais comment emmancher les trucs, les cubes, et ça fait, à la fin, ça fait quelque chose qui tient debout. OK, on peut... Il y a tellement de livres qui sont
j'ai
même pas...
J'ai remarqué que tu abuses beaucoup de « OK ».
Oui, c'est vrai, hein, ça. Faut que je vais faire attention.
T'es un peu dans Les Visiteurs, là.
Donc, il n'y a pas vraiment de dimension dans ce livre qui soit un peu supérieur à ce making-of Capla qui pourrait nous contenter.
Mais il ne prétend pas à ça, ce livre.
Ah si.
Ne lui faisons
pas
des reproches sur quelque chose qu'il ne prétend pas être.
Ah non, alors s'il y a bien une chose que ce livre revendique et ambitionne, c'est bien ça, justement. C'est bien de raconter une chute, et appelez ça comme vous voudrez, un burn-out ou un échec, enfin un désastre. Ça, c'est tout à fait, ça me semble la moindre des choses que d'avoir une telle ambition. Le problème, là, encore une fois, c'est le côté besogneux. C'est le côté, il n'y a pas de finesse. Il y a une justesse, je veux bien même parler de savoir-faire, mais je ne parlerai certainement pas de finesse. Non, c'est dommage.
Nous parlons de ce matin-là de Gaël Josse, qui n'a rien à voir, je le précise, avec notre ami hein, Patricia Vincent Josse.
Ah ben je ne sais pas, tu lui as posé la question.
Ben je l'imagine, non.
Peut-être, j'en sais rien.
Ben je ne crois pas, non.
C'est peut-être de sa famille, je ne sais pas.
Patricia.
Non, moi je trouve que d'abord, peu importe le sujet, parce que, bien sûr, ça a été beaucoup traité, mais en fait, à la limite, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la façon dont c'est raconté. Alors, même si c'est pas un livre génialissime qui restera dans les annales, c'est un livre qui se lit, pas avec plaisir, enfin si, avec un certain plaisir. Moi, franchement, d'abord, je trouve que la description qu'elle fait du monde du travail est très bonne et très juste, absolument glaçante, avec, comme tu le disais, l'urgence. Tout à l'heure, tu parlais de ça, la performance, les injonctions, etc. Et tout ça, pourquoi ?
Mais c'est vrai
tout
qu'on l'a lu mille fois, Patricia.
Mais peut-être, mais il n'empêche, mais une fois, tu fais mille fois les mêmes choses. Chacun fait mille fois les mêmes choses dans sa vie.
Oui, mais en littérature, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe.
Écoute, à partir du moment où le livre coule, etc., moi j'ai trouvé que l'écriture était légère, était fluide, que c'est pas du tout, il y a absolument
pas
de pathos.
Pas légère.
La première scène de la mort de son père est d'une grande lucidité, d'un grand réalisme. Et puis le fait de ne pas savoir quand on a une dépression, quand on vit une dépression, je pense que c'est comme si on était donc lesté par un fardeau. Et ce fardeau, elle ne sait pas où le mettre. Elle ne sait pas comment s'en débarrasser. Et que, évidemment, ça ne peut être qu'un processus, ça ne peut être que très lent. Et je trouve que tout ça est très bien montré, ainsi que la culpabilité qu'on a de ne pas être à la hauteur d'une vie, de ne plus pouvoir appartenir à un groupe, parce que travailler ou avoir des amis, etc., tu abandonnes ça quand tu as une dépression.
Mais si tu permets, là, tu parles de la dépression, tu ne parles pas de...
Mais si, mais elle le montre très bien.
C'est donc ce matin-là, Jean-Claude, c'est Gaël Josse, et c'est aux éditions Noir sur Blanc. Voilà au moins un sujet qui n'a pas été traité par les autres, qu'on trouve dans « Ils voyagèrent vers des pays perdus », le roman de Jean-Marie Roire. C'est chez Albin Michel, plutôt une uchronie, c'est-à-dire, je le rappelle, une reconstruction fictive de l'histoire relatant les faits tels qu'ils auraient pu se produire. L'académicien français qui occupe le fauteuil de l'historien Georges Duby imagine en effet que le 11 novembre 42, le maréchal Pétain quitte Vichy et s'envole pour Alger, où les Américains viennent de débarquer et où il ordonne à la flotte française de Toulon de le rejoindre. Pendant ce temps-là, à Londres, le général, après avoir songé à se suicider, affrète un bateau de guerre nommé Destiné et surnommé le cercueil flottant que Churchill a mis à sa disposition. À bord, notamment, on trouve Raymond Aron, Maurice Druon et son neveu, Joseph Kessel, Gaston Palevski et même Jacques Derrida, le jeune penseur à l'époque de la déconstruction. On ne vous dira pas, en tout cas moi, je ne vous dirai pas la destination du destiné. Roire dit qu'il a voulu écrire un roman à la Jean d'Ormesson, qui était son ami, son maître. Cela dit, le postulat n'est pas totalement faux, puisque De Gaulle aurait confié au colonel Rémy, là je cite, « Je ne comprendrai jamais pourquoi le maréchal n'est pas parti pour Alger au mois de novembre 42. Les Français d'Algérie l'eussent acclamé, les Américains l'eussent embrassé, les Anglais auraient suivi et nous, mon pauvre Rémy, n'aurions pas pesé bien lourd dans la balance. » Michel.
Oui, alors c'est éminemment Jean d'Ormessonien comme roman, et j'avoue que je me suis énormément amusé à lire ce livre, qui est vraiment... je suis étonné que personne n'ait pensé avant Roire à imaginer ce genre de choses et à mettre en contact, à mettre en relation l'univers gaullien de la grandeur, de la sévérité, de l'austérité.
Qui n'est pas très flatteur.
Qui n'est pas très flatteur. Et de le mettre en contact avec le monde un peu érotique, un peu libertin d'un Gaston Paleski, dont on sait très bien qu'il était vraiment Dominique Strauss-Kahn à côté, c'est rien. Et donc, je trouve très amusant, je trouve très réussi l'exercice d'avoir un peu mis tout le monde cul par-dessus tête et de s'amuser avec l'histoire. C'est ça
c'est
qui est très...
C'est le cas de le dire sur un plan sexuel. Mais, oui.
Mais c'est ça qui est très Jean d'Ormesson et du bon d'Ormesson, car il y a un bon d'Ormesson, c'est celui-là justement, celui qui a une espèce de maîtrise, de culture de l'histoire et qui sait s'en servir et qui sait s'amuser avec ça. C'est un livre qui s'amuse énormément. Pour ça, je trouve qu'il est vraiment...
Mais au-delà du plaisir, tu trouves que du point de vue historique, c'est, comment dire, sinon plausible, du moins intéressant. Est-ce que ça apporte des choses nouvelles ?
Ça fait réfléchir. En tout cas, ça oblige à se demander qu'est-ce qui a fait que les choses ont tourné comme ça ? Quel est l'élément décisif qui fait que, finalement, les choses basculent de ce côté, alors qu'il y a énormément de facteurs qui pourraient aller plutôt dans le sens d'un effondrement ou de ce que s'amuse à raconter Roy. Donc je trouve que vraiment c'est effectivement à la fois amusant, très amusant, et en même temps, comme toujours dans me semble quand il est à son meilleur, incitant à la réflexion, incitant à la...
Mais je pensais pas que le point de départ pouvait être vrai, c'est-à-dire De Gaulle se demandant pourquoi Pétain n'était pas parti pour Alger, ce qui aurait changé
De Gaulle d'ailleurs.
Ce qui aurait changé le cours des choses, Jean-Claude.
Ah moi j'ai adoré ce livre, adoré, je le trouve virevoltant, prime sautier, amusant, je trouve que c'est loufoque en diable, c'est empli de bonnes manières et de mots d'esprit, c'est une uchronie totalement invraisemble, c'est-à-dire que
non mais le point de départ n'est pas vraisemblable.
Alors le point de départ est évidemment intéressant, le point de départ est intéressant. En effet, Pétain était parti en 1942, poussé par Roosevelt à aller à Alger. La question que pose Roy est formidable. Que fait De Gaulle à ce moment-là ? Et que devient-il ? À quoi sert-il ? Que devient son utilité dans l'histoire ? Et là, de ce point de vue-là, mais le reste est totalement invraisemblable. Et c'est, d'ailleurs, ça fait partie évidemment du plaisir. Par exemple, tu parlais de Derrida. Ben oui, Derrida, le penseur de la déconstruction, il est jeune. Il a 12 ans en 1942. Donc ça va être difficile qu'il soit sur ce bateau et qu'il soit en plus le prophète de la déconstruction, avec qui d'ailleurs on va faire des conférences sur le bateau. Enfin, tout ça est...
Comme la destination du destiné est très improbable.
Oui,
aussi,
oui, également, bien sûr. Y compris les nuits du général. Alors, voilà un auteur, pour le coup, là je vous rejoins par rapport à votre souci permanent, qui batifole avec un grand souci du style. Et on voit d'ailleurs que le souci du style est un de ses éléments d'amusement. C'est-à-dire qu'il prend plaisir à écrire pour le style.
Bah ça y est, tu commences à y venir.
Non mais attends, je veux dire, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que ça n'est pas un registre unique.
Voilà. Non, enfin, c'est quand même assez
essentiel
à la littérature.
Et qu'il a le goût des mots rares, qui sont d'ailleurs trop peu souvent employés. Alors à chaque page, il y a des mots rares tout à fait intéressants, turlutène, qui n'est pas ce qu'on croit, ductile, captieux. Alors il y a des questions qu'on se pose, pourquoi est-ce qu'il fait de Raymond Aron le souffre-douleur permanent de ce livre, qui est un portrait totalement à charge, avec un type qui est totalement négatif, tout à fait inconséquent. Donc ça, c'est très marrant. Le couple Kessel-Druon est très très bien, le portrait de Kessel est vraiment très bien. Sauf que page 71, je me suis demandé comment est-ce qu'un académicien peut-il laisser une faute aussi grossière ?
Laquelle ?
Jean-Marie Rouart cite Racine, « Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord où vous fûtes laissée ?» Et il oublie le « e » muet après « de quel amour blessé ?» Dans Racine, « de quel amour blessé vous, Ariane, et pas l'amour blessé ?» Et il laisse passer cette faute qui est rédhibitoire pour un académicien, je tiens à le dire. Et puis à la fin, sa liste de lieux de personnages, si je peux me permettre, je la trouve superfétatoire.
Je te verrais bien, moi, je verrais bien Jean-Claude sous la coupole. Je trouve que ça, ça tirait très bien l'habit vert. Arnaud.
Ben oui, la littérature de droite, comme ça, c'est bien, en fait.
Petite parenthèse, je me suis étonné, en préparant cette émission et en vous envoyant le programme, je crois que c'est la première fois que j'ai inscrit Jean-Marie Rouart au Masque et la Plume.
C'est la première fois que je lisais un roman de Jean-Marie Rouart, je dois avouer, et pourtant il en a publié quand même un certain nombre d'ouvrages. Et j'ai beaucoup ri, en tout cas, la première moitié du livre, j'ai trouvé ça éblouissant de culture, de pétillance, de malice.
Et puis d'audace quand même, c'est assez audacieux, je trouve.
Oui,
que...
d'audace. Ça m'a rappelé, je ne sais pas pourquoi, parce que ça se passe 2 ans plus tôt, mais il y a un film pour lequel j'ai une faiblesse coupable, c'est Bon Voyage de Jean-Paul Rapneau. Et je trouve qu'il y a quelque chose là.
C'est à Bordeaux, au moment de
la débâcle. La débâcle, là on est 2 ans plus tard. Là où j'ai un peu lâché, je dois dire, c'est que, alors que tout se tient, que les personnages sont existent, Aron, Kessel, Druon, Gary, Laparte. Soudainement, l'arrivée, tu l'as dit, de Jacques Derrida, qui a 12 ans. J'aimerais poser la question à Jean-Marie Roy, mais pourquoi ? Quelle est l'idée là d'introduire Jacques Derrida, la déconstruction ? Voilà. Et puis après, il faut dire que la deuxième partie, les boulons sont un peu moins serrés, la pétillance devient un peu moins grande, c'est comme la limonade qui a été un peu longtemps ouverte. Quoi.
Oui, je suis d'accord.
À la fin, ça manque de bulles.
Je suis d'accord avec toi.
Voilà.
Oui, ça tient aussi au fait que cette destination n'est pas finalement si drôle que ça.
Non.
Patricia.
Non, je t'en prie, Michel.
Derrida, je pense que Roy n'a pas résisté à la tentation.
C'est pour le mot de déconstruction, je pense qu'il l'a.
Oui,
l'a fait.
C'est une rockstar aujourd'hui. Oui, oui. Derrida, donc c'est amusant.
Il règle des comptes, il profite pour régler des comptes au passage. Voilà, il
s'amuse
pas
des comptes. C'est très bien écrit, c'est très bien construit. Je trouve qu'il y a comme ça une liberté, un savoir d'homme mûr qui n'a pas grand-chose à prouver. Moi, c'est vrai que j'avais jamais lu de livre de Jean-Marie Roy, je l'avoue. Et puis c'est l'idée de départ comme ça, cette espèce de rêve d'une unanimité nationale aux dépens de Gaulle, certes, mais enfin quand même, la France aurait peut-être pas eu. Enfin, c'est une façon aussi d'aller dans cette zone grise et de ne pas mettre dos à dos les pétainistes et les gaullistes comme on l'a fait après. Et puis il y a des scènes quand même qui sont rigolotes quand on a Staline qui est en train de
Tu vas en dire trop là, je sens.
Non, mais enfin bon, bref, il regarde un film, La Chevauchée Fantastique, et puis t'as De Gaulle qui fait les 100 pas, qui attend, qui doit ranger son frein parce qu'il peut pas le voir tout de suite. Puis après, il lui propose de voir un autre film, c'est le Jeanne d'Arc de Dreyer. Ou encore, cette apparition de Pétain qui est en costume gris avec sa jolie moustache qui sent bon, etc., et un sourire malicieux. Le général bafouille devant lui. Et il y a Pétain qui lui dit « Alors, vous ne vous attendiez pas à me voir ?» Bon, moi, c'est des choses qui m'ont fait rire. Les têtes-à-têtes, enfin, les moments avec Churchill, bon, même s'ils sont tout à fait plus que vraisemblables, mais ils sont tout à fait savoureux. Il y a quand même un De Gaulle qui est pris en flagrant délit de mensonge. C'est qu'à un moment donné, il dit « Je préfère me faire arracher toutes les dents que d'avoir une nouvelle discussion avec Franco. » Pourtant, il admire les Espagnols, hein, ça, on le voit bien. Eh ben, c'est pas vrai, parce qu'en 1970, donc des années plus tard, il a rencontré De Gaulle à Madrid, et ça, il y a un livre de Claude Sérillon sur cette rencontre assez incroyable. C'est un vrai roman.
En tout cas, c'est plus drôle que le journal de guerre de Paul Morand qui se passait et à Londres et à Vichy.
Non, et puis tu sais, vous vous souvenez du film d'Alain René, Smoking or No Smoking, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu suis une route, puis tu vois ce qui se passe, puis à un moment donné, l'autre film te montre que si les choses avaient été différentes, évidemment, le destin, lui, en est complètement changé.
C'est donc qu'ils voyagèrent vers des pays perdus. C'est signé Jean-Marie Roy et c'est en même temps le passage d'ailleurs de cet écrivain des éditions Gallimard chez Albin Michel, sa nouvelle maison. Le dernier bain de Gustave Flaubert au Seuil. C'est un roman de Régis Geoffrey. Attention, il ne paraîtra que jeudi prochain, jeudi 4 mars, alors qu'on célèbre le bicentenaire de la naissance de l'auteur de Madame Bovary. Vous le savez, bourreau de travail, forcené du style, comme dirait Jean-Claude, considéré par beaucoup d'écrivains comme le maître à écrire, le patron. D'ailleurs, pour ce bicentenaire, il va y avoir plein de choses, notamment des pléiades qui vont ressortir au mois de mai, des grandes expositions. Bref, le bicentenaire ne fait que commencer. Le livre de Geoffrey s'ouvre à la première personne. Il est Gustave Flaubert, Monsieur Flaubert, c'est moi, qui meurt le 8 mai 1880 à seulement 58 ans dans sa maison de Croisset en Normandie, après avoir pris un bain d'eau bouillante avant d'être foudroyé par une hémorragie cérébrale dans son cabinet de travail. Les souvenirs lui reviennent, ses personnages lui apparaissent, parfois d'ailleurs lui font des reproches, et puis ses amours, Elisa Schlesinger, Louise Collet, etc. On a compris qu'il s'agit d'une biographie romancée, mais enfin très romancée, où Flaubert se promène dans son passé, mais aussi avec des embardés dans le XXe siècle, et ressasse sa conviction que, je cite, « sans style, la langue est morte ». Et puis, page 177, ben on passe du jeu au il, et cette fois, Flaubert devient un personnage de Geoffrey. J'ai un penchant pour la première partie, plutôt que la seconde, qui est plus courte, mais avouez en tout cas que ce n'est pas un livre banal sur Gustave. Jean-Claude.
Ah non, c'est pas du tout banal. Non, non, c'est un livre passionnant. C'est un livre envoûtant par son rythme, hypnotique par la logorée de ce récit comme ça échevelé, qui cavale, qui mélange les époques, les personnages, qui mixe le passé et le présent. C'est totalement fantaisiste. C'est outrancier. C'est libre. C'est
fantaisiste, non. Bah,
c'est comme si, si. Il y a de la fantaisie. Il y a de la fantaisie.
C'est
capricant. C'est audacieux. C'est décoiffant. C'est déroutant. C'est excitant. Mais par moments, on s'y perd. Voilà. Par moments, on s'y perd. Par moments, Régis Jauffray est victime de son procédé. C'est une sorte de manège infernal et parfois on a envie de descendre, de reprendre un peu ses esprits. Alors tu as dit qu'il y avait deux livres. En fait, il y en a même trois. Il y a le jeu, il y a le île et puis il y a le chutier.
Il y a ce qu'il appelle un chutier.
Un chutier.
Alors c'est en tout petit caractère. Voilà. À la fin, c'est tout ce qu'il n'a pas mis dans son livre. Une sorte de corbeille, de poubelle même.
Oui, bah, de chutier. Ah, ouais, c'est ça. C'est juste. Alors c'est écrit effectivement tout petit. Il faut aller chez l'ophtalmo.
Mais qui montre aussi à quoi peut se réduire une vie. En
oui,
fait,
mais pas seulement, parce qu'il raconte aussi son enquête personnelle, comment il prend le train à Saint-Lazare, il a rendez-vous avec des flaubertiens. Alors, il est emporté par son mouvement, il se met en scène par moments. Lui, Régis Jauffray, il parle beaucoup de sa propre mort, enfin, de et c'est amusant de le voir surgir au milieu de cette logorée. Alors, c'est très précis et très précieux, ce livre, quand il parle du perfectionnisme absolu de Flaubert, face à la phrase, confronté au style. Et son besoin aussi de gueuler ses textes pour les incorporer.
Dans son gueuloir.
Dans son gueuloir.
Même les chiens en avaient assez.
Bon. Il y a évidemment la période Louise Collet, c'est à bride abattue, et c'est écrit avec une certaine rosserie. Le personnage de Maxime Ducamp est un peu à l'envers de l'histoire officielle. Les correspondances dont Flaubert avait interdit toute publication posthume et qui aujourd'hui font le bonheur des éditeurs. Sa proximité aussi avec la Seine, son regard toujours posé sur le fleuve. Et c'est intéressant et c'est passionnant aussi quand il imagine la vie propre des personnages qui viennent lui demander des comptes. Et c'est l'anti...
À commencer par Madame Bovary.
Voilà, et c'est l'anti, moi, Madame Bovary, c'est moi. C'est-à-dire qu'elle a une existence propre.
Mais en même temps, le début, c'est Monsieur Flaubert, c'est moi.
Oui, voilà, c'est ça. Et l'agitation autour de son cadavre. Et alors, il y a toujours chez Jauffray ces curieux tirés qui semblent amorcer un dialogue qui ne sera pas un dialogue, qui crée une sorte de césure dans les paragraphes. Et dernière chose, qu'est-ce qu'ils ont tous, ces écrivains, aujourd'hui, à verser dans l'Uchronie? C'est-à-dire que c'est pas le premier, c'est pas le seul. Ils sont quand même beaucoup, aujourd'hui, à verser dans l'Uchronie. Et pourquoi?
Non, mais c'est rien.
Il y a de l'Uchronie.
Enfin,
il y a...
C'est pas une Uchronie au sens propre.
Il y a quand même Régis Jauffray comme personnage de...
C'est 2000. Un roman biographique ou une biographie romancée, plutôt.
Il y a le personnage de Régis Jauffray qui s'introduit dans la vie de Flaubert comme un personnage d'aujourd'hui, du 21e siècle.
Enfin, c'est pas une Uchronie comme l'est le roman de Roubaix Arnaud.
Sur le papier, ce projet, j'y croyais pas du tout. C'est-à-dire que j'aime pas trop... Bon, déjà, là, il y a le moment, hein, c'est que ça sorte pour le bicentenaire, comme si Flaubert était en solde ou en promotion, il était devenu un segment de marché. C'est assez... voilà.
C'est vrai qu'on n'attendait pas Régis Jauffray dans ce...
C'est vrai. Et en même temps,
sur ce domaine-là.
Après, à mon avis, il y a une certaine logique. Ça, c'est la première chose. J'aime pas trop non plus l'idée de la littérature littéraire. C'est-à-dire ce moment où la littérature se retourne sur elle-même et finalement, ça entraîne la pétrification du fait littéraire. C'est, voilà, c'est le mythe d'Orphée. Boum, tu te retournes et boum, il n'y a plus qu'un fossile en face de toi, quoi. Et donc, j'avais peur de ça, de l'exercice de style, de la fossilisation. Et en fait, Régis Jauffray s'en est tiré, mais d'une manière absolument resplendissante, à mon avis, qui fait que je suis pas loin de dégainer le mot chef-d'œuvre à propos de ce livre, quoi. Je veux dire, c'est quand même spectaculaire ce qu'il a fait là. C'est tellement intelligent, parce qu'en fait, c'est Régis Jauffray qui écrit comme Flaubert, qui écrirait comme Régis Jauffray. À la fin, ça donne ça. Et ça donne d'ailleurs quelque chose, ça donne un Flaubert. Parce que je lisais dans le dossier de l'Obs, des écrivains étaient interrogés sur Flaubert. Philippe Lançon parlait de la froideur de Flaubert. Mais là, justement, avec Jauffray, on a, c'est Flaubert de Marseille, quoi. Il y a un côté ensoleillé dans cette agonie de Flaubert qui est absolument, à mon avis, absolument merveilleux avec ce personnage de Madame Bovary, là, qui est là. C'est-à-dire que, en fait, Jauffray explique quelque chose de très fort, c'est que Flaubert risque de disparaître, mais Madame Bovary reste, elle, de rester, de demeurer au-delà de l'œuvre de Flaubert. Il y a plein d'idées comme ça qui sont absolument magnifiques, une langue incroyable et évidemment,
petite, petite parenthèse dans ce dossier sur Flaubert le patron. Oui. Régis Jauffray fait un texte où il dit précisément, c'est au moment où le style a déserté quasiment une grande partie de la littérature contemporaine, qu'il faut défendre le styliste.
Exactement,
Flaubert.
Exactement. On y revient toujours. C'est vraiment la question du style. Elle est centrale là. Et c'est vrai que Jauffray fabrique quelque chose. Encore une fois, c'est la vraie question, si vous voulez, c'est pourquoi Flaubert? Puisqu'on est en 2021, ça c'est le trait de génie de Régis Geoffrey, c'est Flaubert s'exprime, il a tout vu, hein, il a vu la Première Guerre mondiale, il a tout vu, mais pourquoi écrirait-il en 2021 comme Flaubert? Et ça, finalement, c'est ça. Moi, j'aurais rêvé d'un Flaubert qui raconterait son agonie, mais par exemple dans le style de Céline. C'est-à-dire qu'il aurait découvert Céline et Flaubert écrirait comme Céline. Et là, si vous voulez, c'est juste la limite de l'exercice de Geoffrey, c'est que Flaubert est obligé d'écrire comme Flaubert.
Patricia?
Moi, j'ai lu ce livre avec infiniment de plaisir. Flaubert, un bigot de style, comme il l'écrit. C'est-à-dire que c'était une question de survie pour lui. C'est-à-dire, sans style, la langue est muette. Tous les passages sur le gueuloir, etc. Le fait qu'il lit, de toute manière, il casse les pieds à tout le monde parce qu'il est en train de tout le temps vouloir lire ses œuvres à ceux qu'il aime. Flaubert qui est hypnotisé par la lecture, par les autres, par Ovide, par La Fontaine, par Voltaire, qui lit Faust à l'âge de 14 ans et qui tombe littéralement de sa chaise.
Comme dirait Arnaud, tout ça, on le sait.
Mais c'est oui, mais la façon
c'est
dont
ce qu'en
il
fait
l'amène.
Geoffrey qui devient intéressant.
Non, mais la façon dont il l'amène, parce qu'il nous voilà. raconte véritablement
est-ce que tout
une
est vrai,
histoire.
Hein. Je veux dire, y a aucune, contrairement à ce que tu disais, Jean-Claude, il n'y a aucune fantaisie au sens, il n'y a aucune invention.
Non, c'est
tout
ça.
Tout est
Mais en même temps, c'est distillé de façon très... Ça ne se veut pas être un livre savant. Or, ça l'est. Effectivement, on a pu reprocher à Flaubert d'être froid. Alors, c'est peut-être vrai dans certains livres. Évidemment, si tu lis Salammbô, oui, tu peux te le dire. Mais cette espèce de cœur de glace...
C'est parce qu'on a coutume de l'opposer à Stendhal.
À Stendhal, oui.
Qui n'est pas un besogneux du style, mais qui, en revanche, a une chaleur
et
une ferveur que n'avait pas forcément Flaubert.
Oui, beaucoup de chaleur. Et lui, Flaubert ne l'a pas. Sauf quand même vis-à-vis de sa mère, sauf vis-à-vis de Maupassant, sauf vis-à-vis du père de Maupassant, qu'il a énormément aimé. Et alors, la deuxième partie du livre, qui est la revanche d'Emma, quand elle lui dit « Bon, ça va, maintenant, t'arrêtes, tu m'attifes n'importe comment, tu m'as collé un mari horrible, tu m'as jamais aimé, elle l'accuse de l'avoir violenté, elle l'accuse, elle dit « Tu n'es ni Homère, ni Shakespeare. » Moi, mais vraiment, je me suis bidonnée.
Michel, moi, j'ai pas marché.
Ah bon?
Je pense que Flaubert, c'est Flaubert, et on peut pas être à la place de Flaubert. Ce n'est pas possible. Donc, il y a eu un moment dans la lecture du livre, si tu veux, quand j'étais arrivé à mi-parcours, je me suis rendu compte tout à coup que, mais je n'avais qu'une envie, c'était d'aller reprendre un volume de Flaubert dans la bibliothèque et d'oublier Geoffrey. Je suis désolé. Geoffrey est un type extraordinairement talentueux, c'est un espèce d'ogre de fiction. Enfin, c'est incroyable. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit ici. Mais il va dans le mur. Enfin, c'est même pas qu'il va dans le mur, c'est que c'est une très belle idée, magnifique, mais on ne peut pas faire ça. On peut pas. Parce que c'est Flaubert, justement. C'est le célibataire absolu du 19e siècle littéraire. C'est impossible. C'est une tour qui est imprenable. Donc, tu ne peux faire que du moins bien. Donc, du coup, je préférais.
C'est le droit de Michel de le penser.
Je préférais reprendre une de mes vieilles pléiades.
À commencer par la correspondance.
Le
dernier bain de Gustave Flaubert, c'est au Seuil et c'est signé Régis Geoffrey. Et vous allez en bouffer, du Flaubert, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et on termine rapidement avec la romancière et comédienne sicilienne Goliarda Sapienza, morte, je le rappelle, en 1996 dans l'anonymat. Et la pauvreté, sa reconnaissance, vous le savez, a été posthume avec la publication en 1998 de L'art de la joie, qui a été un immense succès et dans tous les pays. Le Tripode, qui s'est lancé dans l'édition de ses œuvres complètes, publie son premier roman, Lettre ouverte, paru en 67 dans une traduction de Nathalie Castagnier, roman toujours autobiographique, où Goliarda Sapienza revient dans sa ville natale de Catane. Je rappelle qu'elle est née en 24, fille d'un avocat et d'une journaliste tous deux socialistes. Elle a donc grandi dans une famille largement recomposée à une époque, les années 30, où l'Italie était fasciste. « Je me décide, écrit-elle en préambule, à vous parler de ce qui me pèse depuis 40 ans sur les épaules, faute d'avoir compris. » Malheureusement, je vous demande de me dire rapidement ce que vous en pensez, Patricia.
Une famille d'une lourdeur incroyable. Enfin, sa biographie, c'est épouvantable.
C'est directement chez le psy, normalement.
Complètement. Le fait même qu'elle porte le nom de sa grande sœur qui était morte. Et là, je trouve qu'elle a une profonde empathie et de la compassion pour les personnages dont elle parle. Elle est à la fois timide et elle a une nature assoiffée. Elle est souvent abandonnée. Lorsque le livre finit, c'est sa vie qui commence. Et là, un combat qui est bien imposant pour son âme d'enfant. Moi, je trouve que c'est une femme extraordinaire. Moi, L'art de la joie, pour moi, c'est vraiment un livre qui a d'une certaine façon...
Pas que pour toi. Hein.
Ça a changé. C'est un livre solaire, c'est un chef-d'œuvre qu'il faut absolument avoir lu. Ça a changé ma vie. Et je voudrais souligner d'un mot quand même la patience de son deuxième mari, Angelo Pellegrino, qui a travaillé, mais comme un titan pour tout classer, déchiffrer, trier.
Mais c'est grâce à lui, hein, que...
C'est absolument grâce à lui.
Goliarda Sapienza.
Et quand on dit que c'est une religieuse marxiste défroquée, je trouve que ça lui va à merveille. C'est une femme extraordinaire.
Et elle a, en plus, aujourd'hui, une remarquable traductrice.
Traductrice a changé.
Qui a entrepris de reprendre tous ses livres, Michel.
Bon, alors...
Bon, ok.
c'est extraordinaire. Je suis d'accord.
Mais en même temps,
c'est schizophrénique. C'est un livre illocalisable. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait sa beauté. Je dis tout de suite.
Comment ça, illocalisable?
Mais on ne voit pas le centre, le noyau dur. On voit une personne qui est constamment dans le moi est constamment ballotté, pris par des sensations, des rencontres, des chocs. Elle passe son temps à traverser ça, enfin, comme un canot qui est brinque-ballé par la tempête.
J'ai du mal à te suivre, là.
Ben, moi aussi, mais c'est ce que j'ai ressenti à la lecture. Je n'arrivais pas à tenir le fil parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fil, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, je parle d'un peu de schizophrénie.
Est-ce que tu as été marqué, toi aussi, par l'art de la joie ou pas?
Non.
Tu l'as lu ou pas?
Oui, tout à fait. Je me souviens.
Ah, mais attends, c'est Vivien Lamy. C'est extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire. Oui, en effet. Au sens strict, c'est extraordinaire. Mais.
Ok, mais.
Je trouve que ça, il manque à cette œuvre un centre de gravité qui n'existe pas.
Jean-Claude,
c'est un peu affolant.
Écoutez, je sais l'importance posthume de Goliarda Sapienza. Je connais l'investissement louable de son éditeur qui a entrepris de tout traduire et de reprendre les traductions.
Il faut dire qu'avant, Vivien Lamy a fait l'essentiel, si j'ose dire. Ouais. Là, le Tripode entreprend les œuvres complètes. Oui, mais
et d'ailleurs, la traductrice de chez Vivien Lamy a repris sa copie.
Sa première éditrice.
Je sais que c'est le livre d'une sorte de renaissance. Je sais que c'est le livre d'un conflit intérieur. Je ne méconnais pas l'enjeu de tout ça. Mais je suis forcé d'avouer ma déconvenue. Et je ne peux que témoigner que de mon embarras. Rien ne m'a intéressé ni touché dans ce livre. Je pourrais y mettre des nuances, mais je suis obligé de le dire comme ça. Ce qui était en cause dans le rejet, c'est précisément le style, en l'occurrence, et qui obscurcit, à mon avis, le propos. Mais en tout cas, je suis resté hermétique. Alors, j'ai fait chou blanc. Je confesse humblement que c'est sûrement moi qui suis en cause et pas le texte. J'ai rien à en dire. Ce texte m'échappe, ne me touche pas. Je rends copie blanche.
Même question qu'à Michel, l'art de la joie, à l'époque, ça t'avait touché.
Ça m'avait laissé comme Michel. Ça n'a pas transformé ma vie comme toi.
Et Arnaud?
Écoutez, je n'avais pas lu l'art de la joie, je ne connaissais pas cette autrice. Moi, j'aime beaucoup quand les éditeurs se battent pour ressusciter des écrivains. Je pense à une éditrice qui s'est longtemps battue pour ressusciter Hélène Bessette, par exemple, ou bien là, récemment, l'éditrice Laurence Vialet, qui se bat pour ressusciter Cathy Acker, qui est morte à peu près en même temps, la même année que Sapienza. Là, enfin, si vous voulez...
La différence, c'est Cathy Acker, c'est après avoir provoqué un scandale,
C'est-à-dire
ce qui n'est pas le cas du tout de Goliarda Sapienza.
Exactement. Qu'il s'agisse de Bessette ou de Cathy Acker, ce sont des formalistes. Là, j'étais étonné de ne voir aucune forme. C'est-à-dire que j'entends bien une voix, mais d'un point de vue littéraire, je ne comprends pas où ça va, quelle est la démarche, s'inscrit, à quel moment, dans quel endroit. Franchement, je suis comme Jean-Claude, c'est-à-dire je suis resté à l'extérieur.
Bon, ça nous laisse muets.
Patricia ouvre des grands yeux, étonnée. Ce qui m'étonne davantage, c'est votre indifférence à l'art de la joie. Mais bon, là, c'est lettre ouverte, c'est donc signé Goliarda Sapienza. Et ça paraît au Tripode. Le temps est venu des conseils dans tous les domaines, hein, roman, poésie, réédition, voire inactualité pour Michel Crépu. On commence avec Patricia.
Alors, c'est le journal de mes oreilles, de Zoé Besmond de Senneville chez Flammarion.
Journal de mes oreilles.
C'est un podcast au départ. Allez faire un tour, c'est très intéressant. Et c'est un récit, donc, qu'elle destine, je crois, à la scène, parce que on sent bien que c'est un récit qui est fait pour être prolongé et partagé par un public. Cette jeune femme, elle a 25 ans, elle est comédienne. Et puis, un jour, en tout cas peu à peu, le son disparaît. C'est-à-dire qu'elle a une maladie génétique, l'autospongiose, qui la rend peu à peu sourde. Et elle passe à travers la surprise, la tristesse, la colère, l'amour, l'apprentissage d'une autre vie, d'un nouveau monde. Les médecins, l'illusion de guérir, tout à coup le mot handicap qu'elle se prend en pleine tronche. Je trouve que c'est dans un style très personnel, avec des phrases très courtes, c'est un coup de fouet.
Mais c'est un récit. Donc.
Ah, c'est un récit, et c'est, voilà, c'est ça.
C'est pas un roman.
Et elle dit être une plaque tournante en plein tremblement de sa propre terre. Et il n'y a pas une once d'auto-apitoiement.
Et hein, c'est aux éditions
Flammarion.
Flammarion, le conseil de Michel.
Alors, chez POL, de Jean-Benoît Puech, La préparation du mariage, c'est un chef-d'œuvre. Il y travaille depuis des années. Vous connaissez un peu Jean-Benoît Puech ou pas?
Non, mais le temps passe très vite en fin d'émission, donc tu vas nous raconter.
Suivez mon conseil.
Vie.
C'est un type Puech qui travaille sur l'autobiographie et la fiction depuis des années, des années. Il a beaucoup travaillé.
Mais donne-nous une bonne raison de lire ce livre-là, Michel.
Eh ben, c'est un véritable roman d'aventure du mois. C'est vraiment.
Et c'est vraiment la préparation d'un mariage?
Non. Bon. C'est le récit de sa vie fictionnelle ou. Et je trouve vraiment, c'est à mon avis, un des événements littéraires de la saison.
Aux éditions POL.
Chez POL, oui.
Mon conseil, c'est un tout petit livre, une merveille. Ça s'appelle « Un été à Miradour » et c'est signé Florence Delèche et Gallimard, d'un été dans la maison familiale du Pays Basque. On est au tout début des années 70. Florence Delèche tire une manière d'impromptu avec dans les rôles principaux son père, bien sûr, psychiatre, académicien français et ami d'André Gide. On reconnaît évidemment Jean Delèche. Son mari, producteur de cinéma, c'est Maurice Bernard. Elle-même, qui à l'époque écrit son deuxième roman en écoutant des chansons de Claude François. Tout ça est évidemment romancé et en même temps, on reconnaît tous les personnages principaux. C'est une merveille signée Florence Delèche que je tiens pour une grande écrivaine. On ne dit pas toujours assez, Jean-Claude.
Je te rejoins. Et alors moi, c'est un récit qui m'a totalement, qui est inattendu. C'est Judoka de Thierry Frémaux.
Ah oui.
C'est un récit d'initiation, d'éducation, d'admiration, de transmission. C'est une autobiographie inattendue, érudite sur le judo.
Je rappelle qu'il est quand même ceinture noire,
oui,
quatrième dan.
Mais oui.
Qu'il a enseigné même.
Il a enseigné et qu'il a été vice-champion universitaire de France. Et que s'il n'avait pas eu une blessure au genou et l'appel de la cinéphilie, il serait encore sur les tatamis. C'est érudit. Il dit sur le judo, son histoire, ses origines, sa finalité, sa philosophie. Il y a beaucoup d'humour et sa diectrie, surtout la trajectoire d'une vie. Il y a un très bel hommage au maître de sa vie par le judo. Alors ce livre, il oscille entre plusieurs registres. Il oscille entre le chemin personnel de Thierry Frémaux lui-même, les différentes étapes de sa formation, avec notamment le déménagement volontaire de ses parents qui ont quitté un quartier bourgeois de Lyon pour aller habiter aux Minguettes, à Vénissieux, pour une raison politique, pour être au milieu de ça. Et il y a de très belles pages sur ce qu'étaient les Minguettes dans les années 70. D'ailleurs, ce livre est nimbé d'une nostalgie pour les années 70. Il y a une ode au Japon, il y a la grande histoire de ce sport. C'est le journal de bord de la génération 57-63. Et je veux dire que c'est astucieusement construit, bien écrit, de belles tenues. Et c'est surtout un traité d'élévation morale.
Et il y a même un mot commun aux deux, à ces deux passions, qui est le mot projection, projection de film, et projection d'un adversaire sur le tatami. Allez, on termine avec Arnaud.
César et toi, de Marianne Alphand, chez POL aussi, qui est un livre absolument remarquable. C'est un livre sur Jules César. C'est Jules César.
Je l'ai lu.
Et c'est un livre d'une modernité absolument incroyable. C'est un livre sur l'archéologie du savoir, l'archéologie culturelle. Qu'est-ce qui remonte lorsqu'on dit Jules César? Alors évidemment, arrive Montaigne, Napoléon, Napoléon III, le Kaiser, et Mérimée, qui était l'expert nommé par Napoléon III pour s'occuper des fouilles archéologiques. Et c'est comme ça, évidemment, les versions latines, le Gaffio, Rome. Enfin voilà, c'est une espèce de monticule de petits paragraphes, finalement, qui raconte ce qu'a été Jules César, ce qu'il est aujourd'hui dans nos mémoires, dans notre culture. C'est magnifique.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Patricia Martin, Michel Crépu, Arnaud Vivian. Et Jean-Claude Raspienjas pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam et ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance Française. Et je les remercie, il y avait Antoine Espel ainsi que Benjamin Vignal pour une réalisation signée Xavier Pestugia dans une semaine. On parle de cinéma dimanche prochain sur France Inter, évidemment.